La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution avec Elisabeth Assayag. Habiller les enfants, c'est vrai que ça coûte cher, alors pourquoi ne pas penser aux vêtements de seconde main? Elisabeth, c'est la solution et elle s'appelle Il était plusieurs fois.
Ouais, savez-vous combien coûte un enfant en moyenne par an hors alimentation? Allez, petit tour de table.
Allez, je dirais 1000 euros.
Ouais, moi aussi j'allais dire ça, entre
presque
les vêtements.
800 euros. Hors alimentation, et ce sont les vêtements et les chaussures qui sont en tête de ces achats. Le marché de l'habillement neuf a quant à lui reculé. On est tous en train de prendre une prise de conscience. On se dit, bon, peut-être qu'un vêtement peut avoir une autre vie. Et le vêtement d'occasion, lui, connaît un essor fulgurant de 12% de croissance par an. Alors, Il était plusieurs fois, répond à ces problématiques, puisque c'est d'abord un magasin à Nantes, mais aussi une plateforme en ligne qui propose des vêtements pour les enfants âgés de 0 à 8 ans et tout est garanti en parfait état. Tous les vêtements sont quasiment neufs et derrière cette plateforme, eh bien, l'objectif c'est que l'achat de vêtements de seconde main devienne un réflexe. Bonjour Marie de Longvilliers.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci d'être avec nous. Alors vous avez créé Il était plusieurs fois. Vous avez changé de vie puisque vous ne faisiez pas ça auparavant. Comment vous est venue cette idée? C'est suite aux enfants? Comment ça arrive?
Oui, tout à fait. En fait, je suis maman de 3 enfants et mon associé aussi. Et en fait, on est parti du principe, et c'est vrai que tous nos placards débordent. On accumule des vêtements de nos enfants. On ne sait pas quoi en faire. En fait, on entasse des caisses et des caisses de vêtements. Et il y a bien un moment, quand même, où il va falloir les vendre. Mais c'est vraiment une tâche qu'on procrastine tout le temps. Donc, nous, on a voulu créer 2 solutions pour simplifier la vie des parents.
Donc, allez récupérer les vêtements si c'est dans la région de Nantes. Sinon, on vous envoie les colis, c'est ça?
Alors, en fait, on a créé à Paris et dans le 92, pour l'instant, les collectes à domicile. C'est-à-dire qu'on va directement chez les parents, trier les vêtements dans les caisses, dans les placards, et on repart avec. Donc, c'est un gain de temps et un gain de place immédiat. Et l'autre solution, donc pour les personnes qui n'habitent pas à Paris et dans le 92, ils peuvent aller télécharger sur notre site internet www.etplusieursfois.com un bordereau d'expédition. Et les collectes à domicile, dans le courant du mois de février, ça va être dans plusieurs villes de France.
Alors, oui.
Quelle ville, par exemple?
À Lille, Toulouse, Avignon. Et on est en train de recruter en fait différentes ambassadrices pour pouvoir élargir notre réseau et le faire partout.
Donc vous essaimez un petit peu partout. Vous existez depuis 3 ans. Là, pour l'instant, vous êtes 8 dans votre équipe. Donc,
mais d'après
ce qu'on entend, vous allez vous agrandir. Qu'est-ce qui vous différencie d'un dépôt de vente classique? Parce qu'il y en a énormément, il y en a de plus en plus, parce que justement, ce marché de seconde main s'agrandit. Vous, c'est quoi votre valeur ajoutée?
Notre valeur ajoutée, justement, c'est qu'on rachète directement le dressing des enfants. Donc, en passant par notre plateforme, en fait, vous débarrassez d'un coup de tout ce qui encombre vos placards. Et nous, on les rachète en fonction de notre charte qualité. Donc, et après, tous les vêtements sont retriés un à un dans notre entrepôt à Nantes, où ils sont mis en ligne. Nous, on veut vraiment que acheter de seconde main pour les enfants devienne un véritable réflexe.
Donc, vous voulez racheter sans qu'on les ait vendus?
Oui.
Vous voulez racheter d'un coup, le lot?
On rachète un lot d'un coup. Ouais. On ne sait pas, justement, contrairement à un dépôt-vente,
classique,
nous,
oui,
on rachète directement la marchandise.
Christophe, je suis notre coach.
Moi, j'ai une question un peu provocatrice, là. C'est de dire, moi, mes vêtements, je les ai donnés. Les vêtements de mes enfants, je les ai donnés, en l'occurrence, je crois, aux orphelins d'Auteuil ou à une... Voilà. Et donc, finalement, quelque part, vous leur faites de la concurrence. Comment est-ce que vous gérez ça?
Alors, il y a effectivement des parents qui préfèrent donner ces vêtements-là. Nous, on les rachète. Et si les vêtements ne correspondent pas à notre charte qualité, parce qu'on a une charte qualité très stricte, ils peuvent être donnés au Secours Populaire si les parents le veulent.
C'est-à-dire que si vous ne les vendez pas, si ça ne rentre pas dans vos critères, à ce moment-là, oui, vous pouvez même, vous m'aviez dit, même les déposer vous-même dans des associations.
Voilà, nous on les donne, enfin les parents ont le choix à partir du moment où ils nous confient leurs vêtements. Mm-hmm. Soit on leur renvoie, soit on les donne au Secours Populaire et tous les mois on leur donne à peu près une tonne de vêtements d'enfants.
Donc vous répondez à cette question aussi, à cette problématique.
Vous avez parlé de charte. Comment est-ce qu'on sait quand on prépare par exemple un panier avec des vêtements de nos enfants qu'ils vont correspondre ou pas à ce que vous attendez?
Sur notre site, on a une charte qualité très stricte. Par exemple, on n'accepte que des vêtements qui sont en parfait état. Parce qu'on sait que on n'a pas forcément envie de recevoir des vêtements qui peuvent être un peu troués, un peu tachés. Et les vêtements d'enfants, il y en a souvent beaucoup qui malheureusement peuvent l'être, mais il y en a quand même une énorme partie qui sont très peu utilisées au final parce que les enfants grandissent très vite. Et du coup, nous, on va racheter ça sur la base justement d'une charte qualité où tout doit être vraiment en état nickel.
Christophe ?
Ça s'adresse aux enfants jusqu'à quel âge ? Enfin, aux enfants, plutôt aux parents d'ailleurs, mais aux parents d'enfants qui ont jusqu'à quel
jusqu'à
âge ?
8 ans.
Jusqu'à 8 ans.
Et pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin ?
Au départ, on a essayé et pour être tout à fait honnête, on n'arrivait pas à avoir assez de marchandises, de vêtements de qualité parce que les enfants, plus ils grandissent, plus ils usent leurs vêtements plus facilement.
Vous misez sur la rareté, hein, sur le fait que les enfants ne portent pas beaucoup leurs vêtements et donc vous dites que là, il y a du potentiel, il y a des stocks à prendre.
Tout à fait. C'est ce qu'on a vraiment remarqué, qu'il y a beaucoup de vêtements qui dorment dans les placards et qui peuvent être en parfait état. Et au lieu, justement, comme on sait que l'industrie du textile, c'est quand même la deuxième industrie la plus polluante au monde, on ne veut pas que les personnes les jettent ou en fassent un usage qui ne serait pas bénéfique. Et c'est pour ça qu'on a favorisé justement cette économie circulaire où on veut vraiment redonner une seconde vie aux vêtements des enfants.
Ça s'appelle « Il était plusieurs fois ». C'est donc la solution d'aujourd'hui pour que les vêtements de vos enfants entre 0 et 8 ans aient plusieurs vies et puissent servir à d'autres enfants que les vôtres. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Il est midi 57.
Europe 1.
Demain, aurons-nous encore besoin de codes ou est-ce que la reconnaissance faciale sera le sésame d'entrée dans nos vies ? Un vrai dossier d'un futur pas si lointain qu'on va ouvrir ensemble aujourd'hui dans La France Bouge. À tout de suite. Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France Bouge.
Europe 1, midi 14h. La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. La France bouge et vous allez voir qu'elle bouge en matière de reconnaissance faciale. Même Orwell et son Big Brother n'auraient peut-être pas pensé que nous en soyons là en 2020 parce qu'aujourd'hui, elle est presque déjà dans notre quotidien. Alors elle vous fait peut-être peur et pourtant, vous allez voir qu'elle peut s'avérer très utile cette reconnaissance faciale. On va se pencher ensemble sur le dossier pour voir quelles limites il faut y mettre mais quels avantages aussi elle peut avoir. Bonjour William Heldin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de 22 que vous avez créé en 2016. Oui. Racontez-moi, comment est-ce que vous en êtes venu, vous, à travailler sur cette question de la reconnaissance faciale?
Ça vient de, en fait, la découverte du computer vision, donc de la vision par ordinateur, l'analyse intelligente des vidéos. En fait, quand j'ai découvert dans ces années-là, justement, qu'on pouvait apprendre à la machine, grâce à des jeux de données, donc déjà des images et des vidéos, à reconnaître le monde comme nous, on l'a conçu, l'être humain, et vu que la vision est notre capteur majeur de compréhension du monde, du coup, apprendre ce qu'on sait à la machine, et donc du coup pouvoir faire des cas d'utilisation qui sont exactement les mêmes que les nôtres. Et de fil en aiguille, en effet, l'objectif était de faire gagner du temps à l'exploitation de nos vies, et d'en gagner du temps, reconnaissance faciale arrive au bout d'un moment, parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite à certains endroits. Alors bien sûr, c'est un sujet qui est large et on va en parler,
oui.
Mais en effet, l'interprétation de la vidéo de manière intelligente a été vraiment le coup d'envoi.
On va commencer par le commencement. C'est quoi, Elisabeth, la reconnaissance faciale ?
Cette reconnaissance faciale permet l'identification d'une personne à partir de son visage, où on peut vérifier quelle est ce qu'elle prétend être. C'est-à-dire, on parle alors là d'authentification faciale. La reconnaissance faciale, elle est capable d'analyser les traits du visage, mais aussi des données biométriques comme les yeux, et de les comparer, si besoin, à des photos ou à des vidéos.
Alors, William Heldin, vous avez fait, vous, beaucoup de recherche et développement. Votre système, il emmagasine justement un maximum de visages pour nourrir l'intelligence artificielle, lui donner un maximum d'informations.
Ça, c'est ce dont on a peur. Et donc, du coup, non. Souvent, c'est justement ce qui est dit, alors qu'en vrai, c'est pas ce qui est fait. Nous, on travaille sur deux axes essentiellement en reconnaissance faciale. Le premier, c'est du contrôle d'accès. Je vais donner 2-3 use cases juste après. Et le deuxième, c'est du paiement.
Exemple,
cas concret.
Exemple. Alors, contrôle
attention
d'accès.
Attention aux des anglicismes.
On parle concret tout de suite.
Oui, parle concret tout de suite. Tout de suite.
Aujourd'hui, dans les chantiers, c'est-à-dire dans des endroits où on construit justement des immeubles, etc., il y a des gens qui rentrent à l'intérieur avec des petits tourniquets, vous devez le savoir.
Oui.
Et donc du coup, aujourd'hui, il y a des badges qui sont échangés et des problèmes d'accident et d'assurance parce que certains justement rentrent et ne sont pas déclarés. Demain, il va y avoir des SAS installés sur beaucoup de chantiers qui permettront en fait le jour 1 d'enrôler, donc d'apprendre le visage justement de tous les gens qui sont autorisés à travailler sur ce chantier-là. Et ensuite, tous les matins et tous les soirs, les gens se pointeront devant cette espèce de sas et pourront être reconnus de manière immédiate et passer directement dans le chantier.
Donc je n'ai plus besoin de mon badge, même si je le perds, je suis mon badge.
Exactement.
En quelque sorte.
Et finalement, c'est un bel axe de développement de cette technologie-là. Imaginez que la reconnaissance faciale, d'un côté, pourrait éviter ou en tout cas supprimer les clés, supprimer les badges d'accès. On arrive chez nous, ça nous reconnaît directement dans notre parking, ça ouvre le parking, on monte, l'ascenseur est appelé, on ouvre la porte, plus besoin d'un trousseau de clés. Et donc du coup, ces choses-là, pour moi, deviennent un axe de développement qui est logique. Bien entendu, et on va en parler derrière, il faut sécuriser les données,
bien sûr.
Il faut légiférer aujourd'hui sur toutes ces données-là. Mais la technologie en tant que telle, finalement, est un accélérateur de nos vies.
Alors, qu'en dit notre coach Christophe Chaud, qui est directeur ingénierie et innovation chez Microsoft France?
Non, mais je crois que William a donné les points principaux. Le sujet aujourd'hui, c'est on a une technologie qui fonctionne. La reconnaissance faciale, ça marche et ça se trompe assez peu, à quelques bémols près dont je vais reparler. Le sujet, c'est de dire comment est-ce que cette technologie, on s'assure qu'elle est bien utilisée.
Comment on l'encadre.
Comment on l'aborde, comment on l'encadre. Donc, on a effectivement un certain nombre de cas qui sont connus, puis d'autres qui ne sont pas connus. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle, c'est que fait le législateur, effectivement. Comment est-ce qu'on borde ça? On a vu des cas récemment dans les médias sur l'utilisation de la reconnaissance faciale dans une école, dans le sud de la France. Voilà. Ça paraît effectivement un peu exagéré. Voilà. Mais ce n'est pas la technologie en elle-même qui est dangereuse, c'est bien ce qu'on en fait. Et puis le deuxième point, c'est effectivement, attention, la technologie, elle fonctionne, mais elle se trompe encore. Elle se trompe encore, en particulier parce que les données qu'on lui donne à ingérer, elles sont rarement complètes. On a vu des cas où, effectivement, comme par hasard, alors en l'occurrence aux États-Unis, elle reconnaissait mieux les hommes blancs que les hommes de couleur, alors, et même que les femmes, parfois. Et donc, finalement, l'enjeu, c'est ça aussi, c'est comment est-ce qu'on s'assure que tous les gens ou les entreprises qui utilisent cette reconnaissance faciale le fassent sur des bases non discriminatoires et qui amènent pas, effectivement, encore des inégalités.
William.
C'est vrai, c'est le cas qui ressort et qui fait toujours peur. Et du coup, on ne comprend pas, nous, en travaillant dedans, pourquoi les médias s'emparent d'une école, d'un collège qui veut faire ça pour contrôler à l'entrée justement qui rentre ou qui ne rentre pas. Pour nous, ce sont des technologies en fait qui ne servent pas à ça en premier. Il y a des usages mais bien plus efficaces qu'aller chercher qui rentre de nos enfants, enfin toucher à nos enfants. C'est clairement nous faire peur et utiliser cette techno pour nous faire peur. Bien sûr, quand on entraîne de la reconnaissance faciale sur un jeu de données avec, je ne sais pas moi, mais des personnes caucasiennes, ça reconnaîtra très mal et même pas du tout des personnes africaines, etc.
Donc ça signifie qu'il faut aujourd'hui pouvoir alimenter les bases de données avec véritablement tous les types de visages, toutes les couleurs de peau, pour que cette intelligence artificielle puisse analyser au maximum les choses.
C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de faire un cas d'utilisation précis à un endroit où on enrôlera les gens, où les gens s'enrôleront, donc se donneront leur visage pour accéder à un service derrière, ou c'est reconnaître tout le monde dans la rue. Je pense qu'il y a aussi ce sujet technique à aborder, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la rue, ce que vous voyez des vidéos chinoises, etc., n'a rien à voir avec la réalité scientifique. Pour choper un visage et le reconnaître, il faut beaucoup de pixels. Et les caméras qui sont dans les rues aujourd'hui sont des caméras équipées de 2 millions de pixels ou 1 million de pixels. Et à 15 mètres, il est quasiment impossible de reconnaître un visage. Et en plus de ça, il est quasiment impossible d'avoir une base de données de tout le monde qui est vachement augmentée. Parce que du coup, une base de données, pour être reconnue, on n'a pas besoin que d'une seule photo de vous. On a besoin de beaucoup et d'apprendre beaucoup de choses dans toutes les luminosités, avec une casquette, pas une casquette, etc. Et donc du coup, tout ça est compliqué. Mais derrière, je pense que mes collègues vont en parler très techniquement.
On va en parler, évidemment. On est ensemble encore pendant plus d'une demi-heure. Elisabeth, je voudrais qu'on regarde un petit peu plus largement ce que c'est que ce marché de la reconnaissance faciale.
C'est un marché qui est estimé à 4,5 milliards d'euros en 2019. Et le marché dans le monde, hein, il devrait dépasser les 10 milliards d'euros d'ici 2025. La reconnaissance faciale, elle suscite énormément de fantasmes et elle est longtemps restée cantonnée un petit peu au film de science-fiction. Et là, en France, elle est devenue une réalité en quelques années. Et puis, la preuve, hein, avec cette annonce du secrétaire d'État au numérique, qui a donc appelé à ouvrir une expérimentation de cette technologie en temps réel sur les images de vidéosurveillance.
On reste ensemble et on continue à parler reconnaissance faciale aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h17. Et on va s'intéresser justement à d'autres types de reconnaissance faciale. Vous allez découvrir avec nous DataCalab, solution de détection des émotions. À tout de suite. Dans la France Bouge cet après-midi, on parle de cette technique qui permet, à partir des traits de visage, d'authentifier, d'identifier une personne. On parle de la reconnaissance faciale. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous via Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous, Raphaël, au 3921.
Ouais, je suis sûre que ça suscite un débat chez vous. On dit souvent que nos yeux, Céline, sont le miroir de l'âme. Et c'est vrai qu'en regardant un visage, on sait si la personne qui nous fait face est triste, en colère ou heureuse. Mais il y a tout un tas de petits signes imperceptibles à l'œil qu'en revanche, l'intelligence artificielle, elle, va savoir détecter et analyser. Bonjour Xavier Fischer.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de DataCalab. Alors ça s'écrit DataCalab. Vous êtes associé avec des chercheurs de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique depuis 2017, après avoir travaillé, je le précise, à Palo Alto aux États-Unis avec Emotient. Là-bas, on utilise la reconnaissance faciale pour savoir comment les gens se sentent. On peut dire les choses comme ça, aussi simplement.
L'usage qui était fait aux États-Unis est pas très loin, et en Californie, ils ont passé de nouvelles lois assez récemment pour justement expliquer et objectiver comment on utilise ces technologies. Pour commencer, par rapport au nom de l'émission aujourd'hui, je vais vous décevoir, DataCalab ne fait pas de reconnaissance faciale. Et pourquoi on voulait être là pour expliquer un petit peu tout ça? C'est qu'en fait, l'analyse de l'image. Si on prend 1000 photos de chat, on va être capable de détecter un chat. Si on prend 1000 photos de visage, on va être capable de détecter un visage. Mm-hmm. Si on prend 1000 photos de Xavier, on va être capable de détecter Xavier. Et en fait, notre but, vraiment, c'est de se dire qu'on va sortir des informations anonymes et agrégées pour pouvoir un peu optimiser la connaissance qu'on peut avoir des clients. Et donc effectivement, avec tous les traits du visage et toutes ces choses, on est capable de détecter pas mal d'informations, telles que l'âge, le sexe qu'on peut avoir, aussi quelques traits et caractéristiques.
Donc pas de reconnaître, mais non, de exactement. Connaître, en fait.
Tout dépend de l'usage. Et bon, le RGPD qu'on a en Europe est à fond là-dessus.
La réglementation, oui.
Exactement. Le but, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on développe de la techno? Quel est l'usage derrière? Et de ne pas développer des algos pour des algos, de comprendre en fait quel problème on solutionne pour en fait dimensionner les solutions qu'on propose. Et donc par rapport aux émotions, ce qu'on est capable de faire, c'est effectivement de détecter des traits du visage. Et bon, l'émotion, c'est un produit d'appel en quelque sorte. Ce qu'on détecte, c'est les expressions faciales. Les expressions faciales, c'est des muscles du visage. Et en fait, non, on n'est pas capable de comprendre l'émotion d'un humain. Enfin, vous ne me connaissiez pas avant que je rentre sur ce plateau. Si je souris tout le temps aujourd'hui, maintenant, vous allez penser que je suis content, mais vous ne savez pas exactement si je suis tout le temps content ou pas du tout content. Et donc, en fait, l'émotion dans l'absolu, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, notre but, c'est vraiment de se dire on va le faire sur plein de gens et de façon agrégée et anonyme pour, un, préserver chacun. Et deux, en fait, collecter les données dont on a besoin pour nos métiers.
Ça veut dire qu'il y a des points précis sur le visage qui sont communs à tous et qui vont nous permettre de dire quand ce muscle-là est en fonction. Alors là, on n'a plus de lumière, mais ça va revenir.
beaucoup d'émotions.
Voilà, beaucoup de peur.
Même
beaucoup
le studio est en émotion.
Là, vous ne pouvez pas voir les émotions sur notre visage. Là, on est capable de dire, on a tant de points sur tant de personnes. Du coup, ça veut dire que...
En fait, on a des modèles qui vont effectivement aligner 98 points, je ne vais pas rentrer dans la technique, pour en fait d'abord voir où est le visage. Et avec ces points-là, on peut faire plein de choses. Effectivement, on peut aller dans de la reconnaissance faciale ou on peut sortir d'autres informations.
Comme quoi?
C'est-à-dire l'âge, le sexe, l'émotion, est-ce que la personne est attentive ou non? Et donc en fait, toute la question, c'est que ces points-là nous permettent de suivre le visage et ensuite, l'usage qu'on va créer va vraiment dépendre des gens pour qui on travaille. Ces émotions-là vont nous permettre de pouvoir... optimiser une publicité, je sais que ça fait peur à chaque fois qu'on parle de tout ça, mais j'en parle proactivement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui font des études avec des questionnaires déclaratifs où on va vous demander est-ce que vous avez adoré cette publicité? Moi, si à la fin, je vous demande est-ce que vous avez aimé ce que je vous ai raconté sur Europe 1, vous allez me dire oui, parce qu'on est tous gentils l'un avec l'autre.
Pas forcément.
Mais c'est pas objectif et ça m'aide pas à avancer. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on traque ces points-là pour voir, grosso modo, si des gens sont attentifs, s'ils ont aimé, pas aimé, pour permettre en fait, de comprendre et de voir sur 300 personnes si ça plaît ou ça ne plaît pas.
Donc, dans une publicité, vous allez détecter le moment où la personne décroche, par exemple?
Par exemple, exactement. Et donc, on va remonter l'information à la marque pour pouvoir voir comment en fait, on prend ça en compte. Après, on a d'autres use cases basés sur... Enfin, use case, j'ai fait le
exemple,
même.
Exemple, ouais.
Par exemple, dans la médecine. La médecine, c'est compliqué parce que c'est dur de trouver des financements encore en France aujourd'hui, mais on a des algorithmes pour détecter la douleur. Et demain, on sera capable en fait, de permettre aux infirmières de mieux comprendre comment vont tous les patients. En fait, parce qu'on a des expressions faciales, quand on est dans le coma, qu'on se réveille, on a des muscles qui vont bouger. Et en fait, au sens large, il y a de plus en plus de gens dans le monde. Il y a de moins en moins de gens pour regarder les gens. Et en fait, on sert simplement à avoir des caméras pour pouvoir faire ça et permettre à l'humain d'être meilleur. La médecine, je vous en parlais, On est assez bon en France et en Europe pour soigner la maladie, mais on ne prend pas souvent en compte le malade. Et donc, bah, les émotions, c'est important. Et donc, en comprenant en fait, la relation qu'il peut y avoir entre un praticien et un patient, on permet d'objectiver des choses. Et quand on a 6 minutes pour soigner quelqu'un, bah, c'est compliqué de voir comment prendre en compte l'émotion. Bah, avec des caméras et avec l'Institut Raphaël, qui est par exemple un endroit qui s'occupe de l'après-cancer, bah, on est capable de commencer à objectiver tout ça. Donc, le but, c'est de développer des technologies pour justement pouvoir en fait, servir différents use cases et d'utiliser ces mêmes points dont on parlait tout à l'heure, mais pour des usages très différents.
Que dit notre coach, Christophe Chaud ?
Encore une fois, je pense que c'est, enfin, les technologies, elles sont là, et vous le disiez vous-même, ce sont des cas d'usage qui vont être intéressants et qui peuvent être potentiellement d'ailleurs dangereux. Vous disiez à l'instant, justement, vous choisissez vos cas, il y a des choses que vous ne faites pas. C'est quoi vos critères finalement et c'est quoi votre méthodologie pour dire on fait, on ne fait pas ?
C'est une très bonne question. C'est notre gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est jugé parti. En fait, on est 15 dans l'entreprise et donc en fait, on se parle entre nous et on dit non, ça ne nous plaît pas parce que. Et donc, on a besoin en fait d'avoir quelqu'un qui dise et un législateur pour réglementer justement un peu tout ça. Pour vous répondre, un point de notre charte éthique, c'est de jamais analyser des individus uniquement. C'est-à-dire qu'on va faire des analyses agrégées. On ne va jamais prendre une personne parce que l'émotion individuelle. Donc de 1, elle ne sert pas à grand-chose.
Et vous basez, pardon, hein, je complète, sur combien de personnes ? C'est quoi le minimum ?
200-300 personnes.
200-300 personnes.
Ouais, et notre but, en fait, c'est de se dire que ben, les émotions de Xavier, par exemple, elles ne vont pas servir à grand-chose et c'est une donnée très personnelle. Ça fait peur, etc. En revanche, de prendre les émotions de 300 personnes et de dire qu'à la 12e minute d'une émission de télé ou à la 27e seconde d'un spot, on a vu qu'il y avait un pic d'attention, ben, ça va permettre à la marque de faire des choses. Donc tout le but, c'est d'avoir les bons moyens pour répondre à l'usage, encore une fois.
Elisabeth ?
Je reviens sur ce que vous faites à l'Institut Raphaël, sur tous ces malades, ces patients après cancer. Qu'est-ce que vous identifiez chez eux ? Ça se passe comment ?
Ben en fait, on a des caméras avec, bien entendu, toujours les patients qui sont consentants, etc., et les praticiens qui veulent apprendre aussi.
Des caméras dans une salle ?
Oui, exactement. Mm-hmm. Et en fait, si vous voulez, un point important, c'est que bon, c'est des données de santé, donc c'est hyper compliqué de les traiter. Mm-hmm. On a créé des algorithmes pour pouvoir traiter la vidéo en 100 millisecondes. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un petit laïus sur la techno. Il y a deux façons de traiter des vidéos, soit en local, donc depuis par exemple la salle dans laquelle est le patient, soit sur des serveurs. Si on envoie de la vidéo sur des serveurs, ça devient très compliqué parce qu'en fait, on garde des traces, il y a des images, etc. Et tout notre but, c'est de justement faire les traitements depuis l'endroit pour simplement envoyer des données agrégées.
Mais c'est quoi, c'est pendant qu'il est, il est en échange avec le médecin et là, vous voyez ses émotions, c'est sur quoi c'est, ça parle de quoi ?
On va détecter l'attention et l'émotion du praticien, l'émotion et l'attention du patient. On va essayer de connecter les deux pour justement permettre de mieux prendre en compte le patient à long terme et donc d'avoir plus d'empathie en quelque sorte.
D'accord. On reste ensemble ? On continue
avec
à parler
plaisir.
Alors reconnaissance faciale ou pas d'ailleurs. À tout de suite sur Europe 1. Il est 13h27.
Europe 1.
À quoi va-t-elle servir cette reconnaissance faciale justement ? Quelles sont les tendances qui se développent ? On se pose la question ensemble tout de suite sur Europe 1. Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France Bouge, avec un dossier du jour qui est consacré cet après-midi à la reconnaissance faciale, une technologie qui n'en est plus à ses balbutiements. On en parle avec vos invités, Raphaël, et avec vous également. Dites-nous ce que vous pensez de la reconnaissance faciale et de la façon dont on peut l'intégrer dans notre quotidien. Dites-le nous via Twitter, hashtag Europe 1, ou alors si vous avez des questions, vous pouvez également nous appeler au 3921. À quoi la reconnaissance faciale peut-elle vraiment servir ? Et quels sont les développements qu'on peut imaginer ? Bonjour Raphaël de Cormis.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'unité innovation et transformation numérique chez Thales. Votre mission, justement, regarder les grandes tendances hein, pour essayer d'apporter plus de valeur à ce que vous produisez. Aujourd'hui, vous faites, vous, de la biométrie dans la reconnaissance faciale, c'est ça, si
en
je
fait,
résume ?
Oui, tout à fait. Alors, la reconnaissance faciale est une forme de biométrie, donc une forme de mesure du corps, et on regarde effectivement les tendances à la fois technologiques, mais surtout d'usage auprès de nos clients et de leurs utilisateurs. Ce qu'on remarque, c'est que dans les grands cas d'usage de déploiement de la biométrie et de la reconnaissance faciale en particulier, les cas d'usage qui ont du succès sont ceux qui permettent de fluidifier nos parcours. Que ce soit nos parcours physiques, quand on voyage, quand on est à un aéroport, on passe par exemple la frontière, ou dans le monde numérique. Par exemple, il y a des grosses exigences réglementaires dans le monde du paiement, dans le monde de la banque, où on a besoin de savoir qui sont les clients. Quand les montants de virement dépassent une certaine somme. Et donc, il faut pouvoir le faire de chez soi et être capable de vérifier que la personne est bien celle qu'elle prétend être. Et donc, on utilise la reconnaissance faciale pour ça.
Ça veut dire que si j'ai besoin de faire un gros transfert d'argent, je vais me connecter en visuel avec ma banque et elle va être en capacité de me reconnaître suivant mon visage ?
Alors voilà, un exemple. Alors, ce n'est pas forcément un gros virement. La régulation met des seuils assez bas, donc c'est 2 500 euros par an. en cumulé. Et effectivement, vous avez deux options. Soit effectivement, vous allez dans votre agence où vous envoyez par mail une photocopie de votre passeport, ce qui n'est pas vraiment très sécurisé. Ou alors effectivement, avec votre smartphone, vous allez prendre une photo de votre document d'identité et un selfie de vous. Et on va comparer les deux pour être capable de déterminer que vous êtes le bon porteur.
Même chose aux aéroports, par exemple, quand on a un doute sur l'identité d'une personne.
Alors, dans le monde physique, comment se passe la vérification d'identité? On va effectivement faire de la vérification, donc un visage contre une référence. Cette référence, quand vous voyagez, elle est dans votre passeport biométrique. Elle est encodée, elle est même chiffrée, donc protégée avec des clés au plus haut niveau de sécurité. Et effectivement, au moment où vous allez rentrer dans le portillon, par exemple aux aéroports de Paris, on va comparer l'image qui est dans le passeport avec une photo de vous, puis on va vous ouvrir la porte. Si par hasard on a un doute, on vous demandera de passer voir un agent comme habituellement.
C'est aussi des solutions qu'on vous demande de développer pour le secteur bancaire. On l'a vu, ça signifie qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'utilisations, même des utilisations auxquelles on ne penserait pas.
En fait, on est à une période assez intéressante où on a ce qu'on appelle une convergence des identités. Il y a l'identité numérique, ce qu'on est en ligne, nos comptes, pas seulement bancaires, nos comptes de réseaux sociaux, d'achat, d'e-commerce. On a notre identité physique, donc ce qu'on est dans la vie réelle, j'ai envie de dire. Et puis, il y a notre identité civile, ce qu'on est au regard de la loi. Et en fait, ces trois identités convergent. Et l'une des technologies qui permet effectivement d'associer ces identités, c'est la reconnaissance faciale, parce qu'elle permet d'avoir une référence d'un visage avec un ensemble d'autres attributs d'identité.
Notre coach, Christophe Chaud.
Non, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Et en particulier, si je prends un cas comme Thalès, qui travaille à la fois dans le monde militaire et dans le monde civil, finalement, c'est quoi les frontières que vous imposez vous-même pour, finalement, pour avoir des cas d'usage qui soient bien différenciés dans ces deux mondes?
Alors, c'est une très, très bonne question. Donc, il y a trois grands enjeux autour de cette technologie et sur lesquels on travaille dans nos labos de recherche. Donc, le premier, c'est effectivement l'enjeu de l'explicabilité et d'être sûr qu'en cas de doute, puisqu'on est là pour développer une technologie qui aide les agents et les opérateurs à mieux travailler, être capable d'avoir des informations supplémentaires. Donc, si par exemple un algorithme nous dit que ces deux personnes ne se ressemblent pas, on doit avoir la possibilité de questionner la machine et dire mais pourquoi est-ce que tu considères qu'il y a une différence ? Donc, on est capable de mettre en valeur les éléments qui ont mené à telle ou telle décision. Autre aspect, c'est que finalement, on est sur des technologies qui sont basées sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, qui sont très gourmandes en données et très gourmandes en énergie. Donc, on va travailler notamment, on va aller dans le logiciel, même dans le matériel, pour pouvoir le personnaliser et avoir des optimisations qui vont nous permettre effectivement d'être moins gourmands en données et moins gourmands en énergie. Et puis enfin, l'enjeu, c'est toujours de revenir au cas d'usage et de bien comprendre ce que veulent nos clients. Et on s'aperçoit dans la très grosse majorité des cas, en fait, on n'a pas besoin du visage. Par exemple, si vous voulez faire du comptage pour vérifier qu'une fan zone est aux bonnes dimensions, si vous voulez vérifier les flux d'un centre commercial pour savoir si les passages ne sont pas encombrés, en fait, on peut travailler avec des silhouettes, donc sans visage. On a minimisé la donnée. Donc, on ne prend pas cette donnée sensible qu'est le visage, ou encore travailler sur ce qu'on appelle une biométrie éphémère, par exemple les vêtements, pour pouvoir vérifier comment circulent les gens.
C'est-à-dire qu'on va savoir combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, combien il y a d'enfants, mais sans avoir finalement leur identité.
Exactement.
Justement, Elisabeth, recourir à la reconnaissance faciale pour assister à des concerts ou à des événements sportifs, ça s'est fait. Hein.
Oui, ça a été expérimenté notamment à Paris en avril dernier lors du sommet européen de l'intelligence artificielle. Ça a été déployé avec l'entreprise Artefact, avec un système de reconnaissance faciale à l'entrée du palais de Tokyo pour un accès sans billet. D'ailleurs, les Jeux Olympiques de 2020, là, qui vont se dérouler à Tokyo cet été, vont déployer pour la première fois de la reconnaissance faciale pour le système de contrôle d'accès sur l'ensemble des 300 000 athlètes, des journalistes, des bénévoles et des organisateurs.
On reste ensemble et on attend évidemment vos questions sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1.
39-21, Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge avec vous. À tout de suite. Europe 1. Dans la France bouge cet après-midi, on parle de la reconnaissance faciale avec vos invités, Raphaël Duchemin. Oui, nous sommes avec William Eldin, fondateur de 22, entreprise de Deep Tech qui a développé des solutions de reconnaissance faciale, n'est-ce pas? Notamment pour sécuriser les chantiers ou les entrées d'immeubles. Xavier Fischer, cofondateur de Data Calab, solution de détection des émotions, ça vous va si je dis ça?
Analyse de visage.
Bon.
Visage.
Je fais attention avec vous, au mot que je prononce. Et Raphaël De Corbis, vice-président innovation et transformation numérique chez Thales, qui développe aussi des solutions de reconnaissance faciale, notamment dans les aéroports, avec Paraf.
Notre coach aujourd'hui, c'est Christophe Chaud, directeur ingénierie et innovation chez Microsoft France. Évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. Nous avons, je crois, d'ores et déjà une question sur Twitter. Céline.
Oui, une question de Marc, hashtag Europe 1, qui dit « La reconnaissance faciale utilisée pour contrôler l'accès nécessite forcément une protection des données ultra sécurisée. Comment procédez-vous »
Qui a envie de répondre à Marc ?
Xavier.
Il y a
tout un tas de... En fait, ça, on lit des pixels. Chaque pixel a une valeur donnée par couleur. Et donc, ces pixels-là, finalement, on rend mathématique quelque chose qu'on appelle, nous, un visage. Et donc, on anonymise directement l'image, donc par des formules mathématiques. On fait en sorte, et c'est très important, de ne pas pouvoir faire du rétro-engineering, c'est-à-dire essayer de remonter et de retrouver justement l'identité grâce à ces formules mathématiques-là. Et donc, du coup, il y a des algorithmes d'anonymisation dans la foulée. Alors ça... C'est dès qu'on veut faire de la reco-faciale, vraiment, du contrôle d'accès, et donc on anonymise tout, et on essaye après de ne pas sauvegarder. Donc du coup, bien ce qui sûr. Est important, c'est tout détruire tout de suite, ou en tout cas, hyper sécuriser ces tunnels-là. Après, il existe tout un tas de choses aussi qui font en sorte que ça floute de manière automatique les visages si on n'a pas besoin d'un use case de reconnaissance faciale. Donc en fait, il existe tout un tas de choses pour anonymiser, plein de techniques différentes. Il n'y en a pas une seule qui est vraiment souveraine. Et ça se développe encore.
Comment se fait-il qu'on l'utilise dans certains pays, je pense évidemment à la Chine, et qu'on soit beaucoup plus frileux en France, par exemple? On a vu que Alicem était en phase de test, que son usage avait été repoussé, qu'il y avait certaines réserves émises par la CNIL sur le dispositif qui était destiné au site internet du service public. Est-ce que ça s'explique?
En fait, là, il y a une question culturelle extrêmement forte. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde la Chine, on a une culture millénaire du contrôle par l'empereur et puis par le gouvernement actuel. La vraie question, c'est finalement quel cas d'usage on adresse et en quoi est-ce que ça va fluidifier nos vies. L'enjeu, c'est d'avoir une confiance très forte avec l'utilisateur. Donc, ça se fait sur deux aspects, à la fois sur l'utilisation des données. Est-ce qu'au-delà de la technologie qu'on fournit, est-ce que les fonctionnalités du respect du règlement sur la protection des données européens, est-ce qu'on a bien une prise du consentement, une gestion du cycle de vie, un effacement quand un employé, par exemple, quitte une entreprise, est-ce qu'on détruit bien ces données biométriques et ses visages pour être sûr, enfin, la représentation mathématique du visage, pour que, effectivement, ce ne soit pas utilisé dans d'autres cas. Après, il y a aussi une confiance dans la technologie elle-même. Est-ce qu'elle, comme disait Christopher, est-ce qu'elle est bien loyale? Est-ce qu'elle fait ce qu'on lui demande? Est-ce qu'elle a un traitement égalitaire de tous les utilisateurs, les clients ou les citoyens? Et ça, c'est effectivement des points qu'on mesure et qu'il faut sans cesse améliorer dans la techno.
Christophe?
Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'au-delà du culturel, je pense qu'il y a du politique, clairement. Et nous avons aujourd'hui la chance en Europe, d'être dans un monde démocratique dans lequel finalement les lois sont légiférées par des parlements, par des gouvernements. Et clairement, on appelle aujourd'hui tous autour de cette table, nos législateurs, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, à définir justement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. C'est quelque chose de fondamental pour à la fois, j'allais dire, pérenniser et sécuriser l'usage de ces technologies qui rendent des services incroyables, finalement, quand on dit.
Xavier?
Oui, moi, le point que je veux ajouter, c'est que ça crée des problèmes, cette dissymétrie entre la Chine, l'Europe, les États-Unis quand même, dans le sens où si je suis allé à Shanghai et en rentrant dans le pays, ils prennent des photos de nos visages, ils nous filment avec leurs caméras de surveillance et donc ils créent des bases de données. Comme tout le monde l'a dit aujourd'hui, le sujet, c'est qu'il ne faut pas trop créer de bases de données d'individus, parce que si on collecte des vidéos de notre visage, moi, comme je le disais en introduction, si on a 1000 visages de moi, on sait me détecter. Et donc, en fait, il faut que chacun puisse contrôler, en fait, parce que son visage, c'est à soi, c'est notre propriété. Et donc, en fait, en Europe, avec le RGPD et cette chance-là, on commence à faire des traitements qui sont faits en temps réel pour ne rien collecter, simplement pouvoir tester, en fait. Et donc, donner une valeur au sexe, à l'âge, à l'identité. Mais en fait, il faut que, mondialement, le sujet de collection de bases de données, et ça, c'est un des problèmes, c'est que l'Europe, comment peut-elle se positionner pour la collection de bases de données en Chine? Parce que dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Les Chinois, ils collectent des bases de données. Ils auront des algorithmes entraînés sur ces bases de données d'Européens. Et donc, ils arriveront à optimiser, je ne sais pas moi, leurs centres commerciaux et toutes ces choses-là.
Oui, alors justement, vous parlez des centres commerciaux. Je voudrais en dire un mot, mais d'abord, je voudrais qu'on parle de l'entreprise Uber, Elisabeth, parce que là aussi, pour le coup, ça avance.
Ça avance bien, parce que on sait tous qu'ils ont eu pas mal de problèmes avec la justice. Et là, Uber a mis en place un système de reconnaissance faciale via lequel l'identité des chauffeurs et des livreurs est vérifiée périodiquement. Si le chauffeur le préfère, la vérification peut être réalisée de manière manuelle, mais là aussi, pour assurer une forme de sécurité, la reconnaissance faciale est mise en place.
Juste un point, vous parliez des centres commerciaux, vous parliez des magasins. J'ai vu que chez Carrefour, au siège de Massy, dans son magasin Concept, il y avait des tests qui étaient faits. C'est un magasin qui est réservé aux salariés. Ça signifie que si on veut aller plus loin demain, en reconnaissant la personne qui fait ses courses, on pourra lui dire ben, « tu as oublié le lait, tu as oublié le beurre, tu as oublié le sel ».
Bah, c'est exactement ça. On travaille aussi sur un concept comme ça chez 22 de magasin autonome. Donc ça veut dire que demain, le computer vision, en fait, peut permettre, enfin la vision par ordinateur, peut permettre justement de reconnaître les produits, les personnes. Donc quelle personne prend quel produit, virtualiser un panier et quand vous vous approchez près de la sortie, vous êtes débité de manière automatique, qui accélère finalement...
Ça existe déjà en Chine, hein.
Oui, bah après,
et au Japon.
Il y a plein de technologies qui peuvent faire ce cas d'utilisation. Un capteur sous les produits de poids qui permettrait de savoir quel produit je prends à quel moment. Mais là, on parle du computer vision, donc de la vision. Et cette vision-là, on est pile poil en recherche appliquée en ce moment pour pouvoir faire fonctionner des magasins 100% autonomes qui augmenteraient les horaires d'ouverture, pourraient prendre un coca en 15 secondes et on pourrait en ressortir de manière autonome.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous éclairer sur cette question qui fait débat sur cette question de la reconnaissance faciale aujourd'hui en France.
Merci
beaucoup.
13h46. Europe 1. Allez, restez avec nous. On va fabriquer des biscuits avec des messages dessus. Elle fait un carton, c'est Chanty Biscuits et c'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est la Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est Chanty Biscuits. Bonjour Chanty Barrel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez lancé il y a 7 ans maintenant votre marque de biscuits. Je crois que tout a démarré le jour de vos 24 ans. On vous a offert en cadeau des accessoires de cuisine.
Exactement.
Et là, vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire avec ça?
En fait, dans les accessoires, il y avait un tampon à biscuits. Et sur le tampon, il y avait marqué « approuvé par le chef ». Et j'ai fait les biscuits et je me suis dit, c'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef, c'est nul. C'est vrai. S'il y avait eu un message plus drôle, j'aurais plus offrir à quelqu'un. Donc, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée.
Donc vous avez l'idée de créer vos propres tampons ?
Exactement. J'ai l'idée de faire des biscuits avec des messages personnalisables.
Vous vous entraînez ? Vous trouvez comment la recette de biscuits ? Vous avez testé chez vous, du côté d'Aix-en-Provence d'abord,
exactement,
dans votre appartement.
Hein. C'est ça. Je testais chez moi, je regardais un peu des recettes sur Internet, je refaisais, je goûtais... dans ma cuisine.
Donc pendant 2 ans, c'est du fait maison dans la cuisine. Et puis finalement, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous avez trop de choses à gérer et vous commencez à trouver des associés, un local, des machines.
Exactement. En 2016, on déménage, on trouve un atelier de fabrication qu'on aménage avec des machines. D'ailleurs, ça a été assez compliqué de trouver des machines parce que notre concept, il n'existe pas. Et comme on avait de plus en plus de commandes, on était obligés, quoi.
Donc, vous vous adressez à qui au départ quand vous commencez Chanty Biscuits ? Vous livrez à des particuliers pour des anniversaires, pour des mariages ?
Oui, c'est vrai qu'au début, j'ai vraiment orienté mariage, baptême, anniversaire. Et après, les cibles se sont ouvertes. Maintenant, on a autant des hôtels, des entreprises, des cafés, n'importe quoi.
Alors, c'est amusant parce que j'ai lu que c'est Instagram, en fait, qui vous a aidé à finalement vous faire connaître. Comment ça s'est passé ? Vous avez mis vos biscuits, vous êtes mise en scène sur Insta ?
Exactement. Alors, en fait, nos biscuits ne sont vendus que sur notre site parce que les gens commandent. Ensuite, on les fabrique et on les livre. Donc, on n'a pas de revendeur, on n'a aucune visibilité physique. Et du coup, je me suis dit, comment je peux me faire connaître ? Bah, je vais faire Facebook, Instagram, je peux le faire avec mon téléphone, c'est facile. Et c'est vrai que sur Instagram, à partir d'après 2017, on a une communauté assez grosse qui s'est formée et le fait qu'on mette des messages rigolos, bah, ça a fédéré les gens et en fait, on a Instagram qui fait rire, quoi.
Ouais, et puis petit à petit, on vous a demandé des biscuits différents. On vous a demandé des plus petits. Je crois qu'on a un bébé biscuit d'ailleurs avec nous ici sur Europe1.fr. Regardez comme il est beau. Ils sont tous pareils, vos biscuits ? C'est toujours la même recette ?
Alors, il y a plusieurs parfums. Donc il y a une forme, enfin il y a deux formes de biscuits, le biscuit classique et le mini biscuit. Et après vous pouvez aussi choisir le parfum, sucré ou salé maintenant.
Donc 10 parfums sucrés, c'est ça,
c'est ça,
et 2 parfums salés.
C'est ça.
Vos biscuits, vous les travaillez à base d'ingrédients naturels. Il n'y a pas d'allergènes à l'intérieur.
Exactement, c'est que farine, beurre, sucre, œuf, plus le parfum qui correspond. Par exemple, ça peut être poudre de noisette si vous prenez noisette. Voilà.
Comment ça se passe aujourd'hui? Il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent vers vous, qui vous demandent des commandes spécifiques.
Oui, maintenant on a à peu près autant de particuliers que d'entreprises qui nous commandent, et on a des commandes pour énormément de situations différentes. C'est même les gens qui nous donnent des idées. Ça peut être pour remercier un client, fidéliser. On a des entreprises aussi, quand ils ont un problème de livraison en interne, pour un client, ils s'excusent avec nos biscuits. Ça peut être des cadeaux de Noël, n'importe quoi.
Comment est-ce que vous avez inventé les messages sur les biscuits?
En fait, c'est les gens qui les inventent. Nous, on propose rien. En fait, c'est vraiment vous tapez le message que vous voulez sur notre site. Et puis après, en fonction des messages que je vois passer, ça me donne des idées pour Instagram, ce qui donne aussi des idées aux gens. Et voilà.
Elisabeth,
si j'ai envie d'offrir un biscuit personnalisé à une amie, est-ce que vous les faites à la commande sur mesure? Il faut que je vous en commande un minimum de 30? Comment
c'est
ça se passe?
Minimum 20. Minimum 20 du même parfum et du même message.
Et combien en moyenne?
25 euros.
25 euros les 20 et ça devient dégressif à partir de 100, c'est ça?
Exactement.
Aujourd'hui, votre marché finalement, c'est monsieur, madame, tout le monde ou ça reste quand même un panier relativement élevé
En fait, comme les gens le voient comme un cadeau, ça peut être tout le monde. En fait, on ne se compare pas du tout à des biscuits que vous pouvez acheter au supermarché. Nous, on se compare à un bouquet de fleurs, à un bijou. Et du coup, quand on a ce regard-là, au final, c'est un petit cadeau accessible.
Christophe Chaud, notre coach.
Non, mais je trouve que c'est génial ce mélange de tradition et de technologie, parce qu'à la fois, le biscuit, c'est vraiment la tradition française en particulier. Et ma question, c'est-à-dire votre technologie, parce que c'en est une, j'ai envie d'appeler ça une imprimante à biscuits, si vous me passez l'expression.
Cette
technologie, vous l'avez conçue vous-même, elle est brevetée, elle est comment ça marche?
Alors en fait, quand il a fallu industrialiser entre guillemets le process, moi je suis allée voir des gens qui vendent des machines de biscuiterie et je leur expliquais ce que je faisais et ils m'ont dit mais ce que tu fais ça n'existe pas, il n'y a rien qui permet de le faire. Et nous il fallait qu'on puisse produire rapidement, on n'avait pas des années à passer en R&D et du coup on a acheté des machines standards et après on a... créer une sorte de moule qu'on a greffé sur la machine, en fait.
Donc, comment ça se passe? Vous faites toujours la recette de base, plus les arômes, et ensuite, vous venez écrire le message avec des petites lettres que
Exactement. Et en fait, le process de fabrication, il est très manuel. Il y a une personne qui va faire la pâte. Ensuite, la pâte est travaillée pour faire le format de biscuit. Enfin, c'est comme un moule, quoi. C'est tamponné et ensuite, c'est cuit et c'est emballé, quoi. Mais il y a plein d'étapes manuelles.
Quel est le message le plus marquant qu'on vous ait demandé?
Le plus marquant... un qui a marqué Instagram, c'est une fille qui a largué son mec, je te quitte connard.
Et elle lui a envoyé les biscuits quand même.
Je ne sais pas la suite de l'histoire, mais
le message était passé. L'international, c'est pour quand, Chanty?
C'est pour cette année, on espère.
Cette année, 2020.
2020.
Écrit dans toutes les langues?
On peut, hein. On a déjà fait des messages en russe, en arabe, on peut tout faire.
C'est Chanty Biscuit et c'est l'entreprise qui va bien. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1 avec des biscuits. La France bouge. Oui. Et oui, ils sont là. Vous pouvez les voir sur Europe1.fr. À demain, Céline, Elisabeth.
À demain,
midi
Raphaël.
Sur Europe 1. Merci à Christophe Chaud qui était notre coach aujourd'hui.
Merci à toi, Raphaël. Merci à tous. À bientôt.